et histoire, comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire. Histoire et actualité du patrimoine, histoire et actualité du libéralisme économique. Je vous rappelle qu'en toute fin d'émission, comme tous les vendredis désormais, vous pourrez entendre notre deuxième « C'était à la une », la séquence concoctée avec le site de la Bibliothèque nationale de France consacrée à la presse, le site Retro News. Aujourd'hui, la comédienne Hélène Losseur nous lira un article de 1933 de l'Humanité consacré au premier concert parisien de Duke Ellington. Auparavant, nous nous serons souvenus que tout le week-end en France, eh bien, on fêtera le patrimoine en compagnie d'Isabelle Anatole Gabriel qui vient de publier une somme sur la fabrique du patrimoine de l'Humanité. Puis Amélie Meffre nous aura rappelé, dans le contexte de réforme du Code du Travail, comment s'étaient transformées les règles du licenciement dans les années 1970. Et enfin, l'historien Stephen Kaplan, dans la deuxième partie de cette émission, nous aura expliqué comment le débat entre libéralisme et étatisme s'est déchaîné dans les années 1760 et 1780 en prenant appui sur le débat sur le contrôle de la commercialisation des blés. C'est ce qu'il explique dans son dernier ouvrage excitant et roboratif « Raisonner sur les blés » chez Fayard. Bonjour Isabelle Anatole Gabriel. Merci d'être avec nous. Alors, nous le savons, les journées européennes du patrimoine s'ouvrent ce week-end, donc, et tout le week-end, par exemple, à la Maison de la Radio, vous pourrez visiter ce qui est devenu un patrimoine du XXe siècle, puisque notre bonne maison dans laquelle vous vous trouvez est désormais un patrimoine du XXe siècle. Il y aura donc du cinéma sonore, il y aura des concerts et donc des visites guidées de ce patrimoine du XXe siècle. Vous vous êtes intéressé à un patrimoine qui n'est pas simplement national, mais qui est un patrimoine mondial dans la fabrique du patrimoine de l'humanité que vous avez publié très récemment, avant cet été, et ce livre donc est une réflexion que vous avez menée sur les conflits, les contradictions, pourrait-on dire, de cette question du patrimoine de l'humanité tel qu'on le connaît depuis maintenant quelques dizaines d'années, et la construction depuis la Seconde Guerre mondiale de cette notion même de protection des œuvres mondiales. Ça a été un long chemin tout de même.
Oui, absolument. C'était une longue construction et c'est ce que j'ai souhaité, ce dont j'ai souhaité rendre compte dans cet ouvrage. C'était qu'il y a plusieurs temps qui ont servi à la construction du patrimoine de l'humanité. Le temps long de notre rapport avec le patrimoine, c'est la notion moderne de patrimoine. Un temps moyen qui est plutôt celui de la géopolitique, puisque bien évidemment, en tant qu'organisation internationale, l'UNESCO est centre dans ce temps, elle agit dans ce temps moyen de la géopolitique. Et puis un temps un peu plus court, qui est celui justement de notre rapport au patrimoine de l'humanité, au patrimoine international, et en particulier l'ensemble des conventions et des recommandations qui constituent le corps de référence, les doctrines qui nous permettent de protéger et valoriser le patrimoine.
Alors, ça commence, expliquez-vous, dans un souci de sauvegarde. On est après la Seconde Guerre mondiale et on se dit il faut protéger des monuments qui, en particulier en période de guerre, pourraient donc être détruits. Et on sait ce qu'il en est, par exemple, en Irak ou en Syrie récemment. Et puis ensuite, on passe dans un deuxième temps, expliquez-vous, dans un souci de protection. Ça n'est plus simplement de sauvegarde. C'est de protéger, et puis dans un troisième temps de valorisation, y compris, pourrait-on dire, commerciale de ces sites du patrimoine mondial, puisque désormais tout le monde se bouscule à la porte pour pouvoir faire classer une petite vallée, un bâtiment un peu noble ou d'autres types, en particulier le patrimoine immatériel, au patrimoine mondial de l'humanité. Donc ce sont ces trois temps que vous décrivez dans votre livre « La fabrique du patrimoine de l'humanité », Isabelle Anatole Gabriel.
Oui, alors bon, la valorisation économique, je pense que c'est un petit peu, aujourd'hui, un petit peu réducteur. C'est vrai que cette approche est très forte. Voilà. Est très forte. Ce que j'ai justement essayé de faire, c'est de montrer qu'elle n'est pas unique. Il y a beaucoup d'autres, je dirais, approches, y compris l'approche des idées et des valeurs que ce cadre a mis en place. Et donc, effectivement, tout cela se met en place à travers des conflits, oui, des conflits qui mènent à des consensus. Et après la Seconde Guerre mondiale, les premières, je dirais, initiatives vis-à-vis du patrimoine sont, pour les pays européens, en réaction au conflit et aux destructions des deux grands conflits mondiaux, d'une part, d'empêcher qu'on détruise, c'est-à-dire de mettre en place un cadre international qui rende contraire au droit la destruction du patrimoine culturel, et puis petit à petit, avec des événements géopolitiques majeurs comme les indépendances, eh bien, on passe à une volonté de valorisation, parce que les pays non européens ne sont pas dans ce contexte d'après-guerre. Donc, pour eux, si vous voulez, ce n'est moins le souci de défendre, enfin, d'empêcher les destructions pendant en guerre, que plutôt valoriser et protéger le patrimoine, par exemple, des destructions naturelles.
Alors, ça passe par différentes étapes. On l'a compris, et vous les décrivez par le menu dans votre livre La Fabrique du patrimoine de l'humanité. Ça passe par des questions, par exemple, de trafic d'œuvres d'art. Est-ce qu'il faut protéger, par exemple, ces trafics d'œuvres illicites? Comment le faire? Et on voit, parce que vous avez travaillé sur les archives de l'UNESCO, en l'occurrence, on voit les discussions en séance, en commission, les prises de position. On voit, par exemple, que le Burkina Faso, qui ne s'appelait pas encore comme cela, la loi Haute-Volta, à un moment ou à un autre, dit, écoutez, c'est bien gentil, votre histoire sur les trafics d'œuvres illicites, mais nous venons juste d'être un pays indépendant. Et la question, c'est que ces œuvres illicites, elles sont parties ailleurs, elles sont parties dans les pays colonisateurs, et nous ne pourrons pas les récupérer, et nous n'avons pas les moyens, en tant que jeune pays naissant, d'avoir l'argent pour récupérer ces œuvres. Il faudrait qu'on mette en place une procédure d'avocat, une procédure qui permettrait de faire des procès et de récupérer ces œuvres. On voit bien qu'il y a, vous l'avez dit, une sorte de bascule à partir des indépendances africaines, en particulier dans les années 1960, que le ministre de la Culture égyptien, dès 1960, dit qu'il faut restituer l'histoire africaine à l'Afrique et au monde en même temps, et que beaucoup d'autres pays nouvellement indépendants s'engagent sur cette voie, en l'occurrence Isabelle Anatole Gabriel.
Oui, cette phrase de Sarwet Okacha, le ministre de la Culture égyptienne, est une phrase d'une immense profondeur, extrêmement belle, restituer l'Afrique à elle-même. Effectivement, la mise en place de la convention de 1970 sur le trafic illicite, enfin l'interdiction du trafic illicite, marque un basculement d'un ancien projet, le projet patrimoine moderne qui date de la Révolution française, avec autre chose qui est spécifique au plan international, où viennent se greffer, bien évidemment, des enjeux qui sont de nature complètement différente, qui sont d'abord essentiellement la volonté des États nouvellement indépendants de faire reconnaître leur culture pour trouver une place sur la scène internationale, et aussi donc de récupérer leur passé. Donc, bien évidemment, cela pose le problème de la circulation des œuvres d'art.
Où se trouve le passé en question
Absolument. Où se trouve le passé. Mais ce que l'élément essentiel à comprendre, c'est que ce sont des conflits d'intérêts qui sont constructifs en termes de mise en place d'un cadre normatif.
Alors vous expliquez par exemple combien la campagne de 1960 sur les monuments de Nubie qui étaient menacés donc par la construction d'un grand lac de barrage sous Nasser a mobilisé les troupes, a mobilisé internationalement toutes les puissances dans une sorte de solidarité internationale pour sauver ces monuments, qu'il y a eu ensuite la même chose pour Venise avec l'Acqua Alta, pour Florence, pour Istanbul et Göreme, et que ça construit d'une certaine façon les bases de réflexion sur la coopération internationale et sur l'idée aussi que peut-être ce patrimoine qui était considéré souvent comme national pouvait être aussi considéré comme un patrimoine mondial. Et d'ailleurs, avec les tensions afférentes, qu'est-ce qui relève du national et qu'est-ce qui relève du mondial, en l'occurrence Isabelle Anatole Gabriel?
Oui, vous le soulignez justement, c'est une autre étape qui se met en place entre 1960 et 1970, qui est la responsabilité collective, la responsabilité de la communauté internationale à protéger justement les témoignages les plus emblématiques des cultures. Et l'on va glisser donc d'un cadre normatif qui est plutôt contraignant, qui est plutôt d'interdire, plutôt d'empêcher, vers quelque chose qui sera justement évidemment, la valorisation.
Promotion culturelle.
La promotion, la reconnaissance, mais aussi le partage des tâches, je dirais. Le souci de mettre ensemble des moyens pour protéger le patrimoine qui devient international.
Alors, on sait qu'à l'UNESCO, ils n'ont pas toujours eu de relations très bonnes avec un pays qui s'appelle les États-Unis, dont nous avons un ressortissant à cette table, en personne de Stephen Kaplan. Mais en tous les cas, effectivement, on vous lit, et moi j'étais très intéressé de voir que, par exemple, pour l'élargissement à la question du patrimoine naturel, c'est-à-dire pas simplement un patrimoine culturel, mais un patrimoine naturel, eh bien les États-Unis ont été moteurs et même un peu brouillons, un peu en demande, et ont freiné parfois, sans le vouloir, la possibilité justement de faire entrer cette question du patrimoine naturel, qui est désormais entrée dans cette notion de patrimoine mondial, Isabelle Anatole Gabriel.
Oui, merci de revenir à ce moment de...
Les années 70, quoi.
Les 70 et du rapport entre patrimoine naturel et culturel, parce que, justement, on a un peu tendance à croire que l'introduction du patrimoine naturel dans les préoccupations de l'UNESCO est une grande innovation typologique. Donc, les archives, et c'est l'intérêt de faire un travail d'archives très fin, très fouillé, et aussi, mais évidemment, très contraignant, c'est de montrer que l'insertion du patrimoine naturel dans le cadre de protection du patrimoine a résulté justement d'une rivalité, je dirais, de compétences entre les États-Unis, qui souhaitaient mettre en place de leur côté une convention pour la protection du patrimoine de l'humanité qui n'aurait concerné que le patrimoine naturel, et puis l'UNESCO qui était en train de mettre en place la future convention de 1972. Et donc, à un moment donné, eh bien, s'il y a un conflit des enjeux de visibilité qui se rencontrent, l'UNESCO convainc les États-Unis d'intégrer le patrimoine naturel dans ce grand cadre, dans la convention de 1972.
Alors tout cela, évidemment, ça rentre dans le contexte des États-Unis qui se préoccupent, après Silent Spring en particulier, de la question environnementale, donc toutes ces années 60 et 70. Et puis vous prenez, pour votre livre « La fabrique du patrimoine de l'humanité », quatre exemples que vous fouillez plus particulièrement en étant allé voir les dossiers de demande justement d'inscription au patrimoine de l'humanité. Il y a la vieille ville du Caire, il y a Teotihuacan, il y a Angkor et il y a Ellis Island et Liberty Island, donc les deux îles qui sont au large de New York. Et vous expliquez pour chacun de ces exemples combien effectivement, on a procédé par tâtonnement, par désir de la part des pays qui voulaient les voir classés, par nécessité d'adapter aussi la législation internationale sur ces points, et que parfois effectivement, alors que l'on veut défendre une identité, par exemple pour la vieille ville du Caire, eh bien sans le vouloir, on s'inscrit dans les vieilles visions colonisatrices qui ont délimité des Bonaparte, pourrait-on dire, ce qu'était justement une vieille ville arabe. Et qu'est-ce qu'une ville arabe orientale, dites-vous? Eh bien, c'est souvent déterminé par les colonisateurs et dans un contexte d'indépendance, parfois repris par les pays nouvellement indépendants.
Oui, c'est l'intérêt d'aller profondément dans l'historiographie et d'en voir comment un site de patrimoine se forme d'abord au niveau national et comment c'est le résultat, bien sûr, d'une écriture savante, d'une écriture administrative, et comment, eh bien, tous ces récits, cette construction de patrimoine au niveau national, est différente au plan international. Et pour le cas de la vieille ville du Caire, c'était vraiment intéressant de montrer comment l'Égypte s'est à la fois appuyée sur l'orientalisme, ce que l'orientalisme avait installé de rapport de l'Occident à l'Orient, et tout en se le réappropriant et en faisant un enjeu de son identité nationale.
Alors, je pense que tous ceux qui sont allés à New York dans les années précédentes et qui ont évidemment visité soit Liberty Island, soit Ellis Island, seront surpris en vous lisant, par exemple, de découvrir que ce qu'ils visitent, ce bâtiment de Ellis Island, par exemple, qui a été effectivement transformé en musée de l'immigration, est un bâtiment qui correspond à une période où on va quasiment plus intégrer de nouveaux immigrés dans le pays, puisque le bâtiment précédent, qui est lui celui de la grande masse des immigrés qui arrivent à New York, eh bien, a brûlé à la fin du 19e siècle et qu'on en a reconstruit un nouveau en 1900, et que c'est ce nouveau qu'on visite aujourd'hui, considérant que c'est celui qui, de tout temps, a accueilli ces immigrés arrivant dans la baie de New York.
Oui, alors le cas de Liberty Island et Ellis Island est là encore exemplaire des récits qu'on construit quand on parle de patrimoine et quand on crée.
C'est ce que vous appelez les récits patrimoniaux.
Voilà, c'est cela, puisque si Liberty Island est inscrite sur la liste du patrimoine mondial à l'occasion du centenaire de son installation à New York, Ellis Island est à l'époque un centre qui est complètement abandonné.
Oui, ça a été transformé en prison puis abandonné ensuite.
Voilà, mais il y a un rapport étroit qui est installé dans les années 60 par une législation en 1965 entre la grande symbolique de Liberty Island et Ellis Island.
Par les présidents américains, en
l'occurrence. Par Johnson, le président américain.
Et donc, d'une certaine façon, en faisant une sorte de parc qui met les deux bâtiments ensemble, eh bien, il donne l'opportunité de classer les deux bâtiments ensemble, d'une certaine façon.
Oui, alors, pour l'instant, il n'y a que Liberty Island qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Il se trouve qu'Ellis Island défigure désormais sur ce qu'on appelle la liste indicative du patrimoine mondial. Donc, effectivement, peut-être que le réaménagement du centre dans le futur fera l'objet d'un classement international.
Alors, on a beaucoup intérêt à vous lire, en l'occurrence Isabelle Anatole Gabriel, pour comprendre par le menu comment justement le patrimoine n'est pas un donné, mais un construit permanent et un construit par le discours, puisque vous analysez très finement, justement, dans votre livre « La fabrique du patrimoine de l'humanité », ces discours qui finissent par se transformer en pierre ou en parcs nationaux un peu partout dans le monde et qui nous donnent l'occasion de nous émerveiller devant la beauté de ce monde. Merci encore.
Merci.
Isabelle Anatole Gabriel. C'est paru aux éditions, donc à la fois aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme et des publications de la Sorbonne. Et bonjour Amélie Meff.
Bonjour.
Et quel plaisir de nous revoir donc pour votre chronique mensuelle Un saut dans la loi, où vous reprenez une loi ancienne qui peut éclairer l'actualité d'aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, après la première manifestation qui avait eu lieu contre les ordonnances Macron visant à réformer le code du travail et qui en particulier transforme les règles du licenciement, vous êtes intéressé à la mise en place en partie par la loi du 13 juillet 1973 donc de ces questions des règles de licenciement.
Voilà. En fait, à la fin des années 60 et au début des années 70, les gouvernements entendent transformer en profondeur la société française pour installer une société libérale avancée. Mais en même temps, dans un contexte de crise économique qui se dessine, eh bien, ils veulent renforcer l'action de l'État pour venir en aide à ses victimes. Les grandes institutions du service public de l'emploi sont mises en place, comme la NPE, en 1967, puis des aides spécifiques ont été imaginées pour les salariés âgés, comme le Fonds national de l'emploi, qui permet aux travailleurs licenciés d'au moins 57 ans de bénéficier d'allocations jusqu'à leur retraite. Et le souci apparaît aussi de maintenir l'emploi. On envisage notamment de freiner les licenciements, du moins ceux qui paraissent abusifs. Et puis, bon, il faut bien se rappeler qu'on n'est pas loin de mai 68 et que ça s'agite grandement chez LIP. En gros, il vaut mieux œuvrer pour la paix sociale. Alors, plusieurs lois ont déjà tenté d'encadrer les ruptures abusives des contrats de travail. Il y a celle de 1890 qui confère un droit d'action en justice. Même chose avec celle du 19 juillet 1928 qui donne droit à des dommages et intérêts. Mais ces textes sont peu appliqués, dans la mesure où il incombe aux salariés licenciés d'apporter la preuve de l'abus, et c'est vraiment pas simple. La Cour de cassation, d'ailleurs, interprète les textes en énonçant que l'employeur est responsable de la bonne marche de son entreprise, le licenciement décidé par ce dernier était donc en principe licite. En 1958, une loi édicte tout de même quelques règles. L'employeur doit notifier le congé par lettre commandée et respecter un préavis. En 1973, les choses changent avec le projet de loi déposé par le gouvernement Messmer quant à la résiliation du CDI.
Alors le ministre du Travail s'appelle alors Georges Gorce.
Et Georges Gorce, eh bien, il explique le 22 mai à l'Assemblée nationale, il paraît, je cite, « il paraît aujourd'hui impensable que les développements économiques viennent porter préjudice aux travailleurs qui contribuent à le réaliser. Expansion économique et protection sociale doivent aller de pair ». Or, la transformation des entreprises qu'imposent les progrès techniques, les nécessités de la concentration, les mutations accélérées par la mise en place du marché commun, provoquent ça et là des mouvements de personnel, voire des compressions. Le devoir du gouvernement est de veiller à ce que ces mouvements ne donnent pas prétexte à abus et injustices.
Alors, c'est Georges Gorce qui le dit, non pas maintenant, hein, le 22 mai 1973 à l'Assemblée nationale.
Voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est de codifier les textes déjà existants, d'imposer une procédure préalable à la rupture du contrat de travail et de respecter la défense du salarié. Comme l'explique encore Jean Bonhomme, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, toujours dans cette même Assemblée nationale en 1973, donner aux travailleurs plus de dignité et de sécurité constitue une aspiration essentielle de la société. C'est répondre à cette aspiration que de chercher à libérer les hommes des risques et des incertitudes de la vie professionnelle. Le licenciement ne sera désormais licite que s'il est justifié par une cause réelle et sérieuse. À ceux qui s'interrogent sur cette notion assez floue, le ministre du Travail répond qu'une cause est réelle, je cite, si elle présente un caractère d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle peut être par exemple une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation professionnelle. En cas de rupture abusive de contrat, des dommages et intérêts seront versés aux salariés.
Alors, qu'est-ce qu'on dit en 1973, Amélie, du côté de l'opposition ?
Eh bien, dans l'opposition, on n'est pas vraiment satisfait. On réclame une réintégration du salarié dans l'emploi, qui est la seule réparation valable pour effacer le préjudice. Alors, je vous cite Jean-Antoine Gault, député socialiste de l'Isère. Il dit « L'indemnité que prévoit le texte et qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire nous paraît insuffisante pour avoir un véritable caractère dissuasif ».
Donc le texte va faire des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat et va être finalement adopté le 13 juillet 1973.
Voilà. Et alors ça veut dire que dans les entreprises de plus de 11 salariés et qui ont plus d'un an d'ancienneté, la loi impose à l'employeur de motiver le licenciement et au juge de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs. Le salarié licencié abusivement peut percevoir des dommages et intérêts. En fait, comme le rappelle le sociologue Claude Didry, la loi de 1973 constitue une sorte de charte du CDI qui impose, après plus d'un siècle de débats, l'exigence d'une cause réelle et sérieuse pour la rupture de ce contrat, c'est-à-dire reposant sur des objectifs, des éléments objectifs et donc vérifiables. Dans la foulée, une autre loi du 3 janvier 1975 va encadrer les licenciements économiques, en mettant en place une autorisation administrative préalable. Elle ne va pas durer longtemps. En 1986, elle sera supprimée. Alors même si ces deux réformes sont timides et ne maintiennent pas l'emploi, on compte quelques 400 000 chômeurs en mars 1974, plus de 750 000 l'année suivante, elles consacrent quand même le droit du licenciement. Ça veut dire que la rupture du contrat doit être le dernier recours qu'aucune autre alternative n'est possible. En fait, elle n'est plus une simple liberté contractuelle, mais elle devient un acte juridique avec des règles propres que le gouvernement actuel entend changer.
Merci donc Amélie de nous avoir rappelé ces règles du licenciement telles qu'elles ont été décrites et définies en 1973. On peut lire sur ce sujet Claude Didry que vous avez cité, l'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire, paru à La Dispute en 2016, et l'emploi en rupture sous la direction de Bernard Gommel, de Dominique Méda et d'Evelyne Cerverin, paru chez Dalloz en 2009.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Deuxième temps de notre Fabrique de l'Histoire de ce vendredi, pendant lequel, le vendredi, nous parlons d'actualité de l'histoire et nous avons le bonheur et l'avantage d'avoir à notre micro Stephen Kaplan. Bonjour Stephen Kaplan.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Merci de revenir. Ça fait quelques années que vous n'êtes pas venu à la Fabrique de l'Histoire et nous le regrettons donc pour un énorme livre, un grand ouvrage qui, d'une certaine façon, boucle la boucle puisque vous expliquez d'en raisonner sur les blés, puisque c'est le titre de ce livre, Essai sur les lumières économiques chez Fayard, combien il est la suite, le complément, pourrait-on dire, d'autres livres que vous avez en particulier consacrés à cette question du commerce des blés avant la Révolution française, mais surtout de votre thèse d'origine, qui est parue donc dans le milieu des années 70, sur ce thème.
Oui, c'est en quelque sorte J'allais dire la fin de mon parcours. Je ne peux pas.
Oh ben
je,
non, j'en sais rien, faut pas dire ça.
Mais c'est une suite logique de ce que je faisais et je commençais évidemment dans un souci d'enquête sociale. Et j'ai traversé, en tant qu'historien, un certain nombre de moments de bouleversement, d'affrontement. Et il me semblait à un moment donné que je voulais revenir à l'histoire des idées qui était en quelque sorte mon altérité, mon autre, et de voir si en réexaminant cette histoire des idées, je ne pouvais pas trouver un moyen de mieux comprendre ce que j'avais tenté moi-même et puis de revoir les lumières autrement.
Alors, rappelons-le, vous êtes né à Brooklyn, vous êtes venu dans les années 60, au début des années 60 en France. Vous avez fait donc une thèse qu'on appelle d'histoire sociale, qui était très marquée par l'école des Annales, justement sur cette question du marché dans la période d'avant la Révolution française. Vous êtes devenu ensuite progressivement un historien du pain. Dans ce livre, Raisonner sur les blés, vous vous intéressez justement à ce mélange entre histoire des idées et histoire sociale, et à l'impact que peuvent avoir les débats intellectuels dans les années 1750-1780 sur le social, parce qu'ils s'appuient sur le social, mais aussi ils ont des effets sur le social, en l'occurrence Stephen Kaplan.
Exactement, et je parle d'un discours libéral qui se fait cher, c'est-à-dire qui pèse, qui a un
sur
impact
le réel.
Sur le réel. Et j'étais, d'un côté il y avait cela, de l'autre côté il y avait des débats historiographiques qui, à un moment donné, nous ont invités à croire que, puisque tout était construit discursivement, le réel n'était qu'une espèce d'artefact et même une espèce de partie inférieure. Dans une logique un peu revancharde que je comprenais bien, parce que quand j'ai commencé, on était donc les Annales, trois niveaux. Il y avait donc le niveau fondamental qui était économique, un autre niveau qui était social, et puis il y avait donc cette espèce de raffinement supplémentaire, la superstructure qui était réservée à la culture. Évidemment, ça a suscité une révolte énorme en France et avec ailleurs d'autres formes de rejet, dont le tournant linguistique, dont la postmodernité, et puis le culturalisme rampant. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être c'est pour moi l'occasion de voir dans quelle mesure je peux prendre la mesure des choses, non pas dans une logique nostalgique de reconstruire une histoire sociale hégémonique, ça c'est fini, mais non pas dans une logique de repentance non plus, parce que je ne regrettais pas ce que j'avais fait, mais j'avais beaucoup appris à travers ce moment-là.
Alors, vous nous faites découvrir dans ce raisonner, alors je précise que ça s'écrit comme la raison, raisonner sur les blés, qui est en fait issu d'une phrase de Voltaire. Alors c'est une phrase ironique de Voltaire qui nous explique que, à force de se quereller sur l'opéra, sur le théâtre, sur tout un tas d'autres choses, effectivement, on est enfin parvenu, dit-il, à raisonner sur les blés, c'est-à-dire à s'intéresser à la pensée économique qui est à l'œuvre dans ces années 1750-1780. Vous nous faites découvrir des personnages qu'on ne connaît pas ou que très peu connaissent. On sait qu'il y avait un certain docteur Quesnay qui était le chef des physiocrates. On sait qu'il pouvait y avoir un Turgot et un Necker, parce qu'on l'a tous plus ou moins appris à l'école, mais on ne connaît pas Galliani, le napolitain arrivé à Paris. On connaît peu Morlaix. On connaît évidemment Diderot, auquel vous consacrez un chapitre. On connaît peu l'abbé Roubaud aussi, ou encore Le Mercier de la Rivière, et tous donnent lieu dans ce livre à un essai que vous faites pour chacun d'entre eux pour comprendre pourquoi la parution de leurs travaux a provoqué un véritable débat. Alors il faut peut-être dire que ce débat, il a lieu entre ceux qui s'arrogent le titre d'économistes, qui sont les physiocrates, que vous n'aimez pas plus que ça. Vous aimez pas beaucoup les physiocrates, Stephen Kaplan.
Oh, pas tellement, voilà, pas tellement. Bon. Mais ils ont joué un rôle primordial.
Voilà. Et qui veulent donc libéraliser le marché, en l'occurrence. Et de l'autre côté, tous ceux qui débattent contre eux, à côté d'eux.
Les fainéants, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, un peu les fainéants, on a compris, et que vous aimez un peu plus cela, et vous vous intéressez justement à ce débat tel qu'il se noue. Alors, vous dites d'abord que tout cela, ça a il y a une sorte de période d'inauguration qui est ce moment 1763-1764 où, après avoir fait une sorte de préparation d'artillerie auprès du gouvernement et auprès du roi, les physiocrates disent, eh bien, tout compte fait, ces blés dont vous contrôlez le prix, dont vous contrôlez le poids, dont vous contrôlez tout d'une certaine façon, la qualité de la farine, etc., puisque l'État a très peur des révoltes frumentaires, il faut libéraliser tout ça, disent-ils, et ils obtiennent en 1763-1764 la libéralisation du blé. Bon, ça donne une catastrophe, ça vous fait plutôt plaisir.
Non, je suis pas dans le Schadenfreude, mais ce qui me frappe, il y a trois choses qui me frappent. D'abord, ils ont réalisé ce coup-là. C'était tout de même la réforme la plus radicale imaginable. C'était dramatique. C'est un moment évidemment prométhéen, c'est un moment grisant. C'est le moment jupitérien de se débarrasser des règles et des rentes, comme dirait l'autre. Mais c'est plein de risques. Et ces risques-là...
Ils font courir le risque à l'État et au roi lui-même.
Et
parce que d'un seul coup,
le
roi qui est le prince nourricier perd ce rôle-là, d'une certaine façon. Et donc, effectivement, pourquoi se tourner vers le roi alors qu'auparavant, c'était celui qui assurait le fait qu'il n'y avait pas de disette ou pas de famine, ou le moins de disette ou le moins de famine possible, si, d'une certaine façon, c'est le marché qui décide de tout, dites-vous?
Exactement, mais j'essaie donc de mettre en question ce marché-là. Aujourd'hui, on dit marché, et on a une notion un tout petit peu anthropomorphisée. C'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui est réglé, voire auto-réglé. Or, on est à un moment où la notion de marché est complètement inversée, parce que le marché, ancien régime, c'est un bastion réglementaire. C'est une espèce d'investissement, de restriction et de prohibition. Et le marché que proposent les physiocrates, qui est pensé par Turgot comme une vraie abstraction élaborée, c'est autre chose.
Alors, on a plaisir à vous lire, parce que d'abord, il faut le remarquer, vous avez tout écrit en français. Vous vous êtes fait corriger par certains de votre entourage, mais en tout cas...
Par mon épouse, ouais, en particulier.
Voilà, et qu'il faut remercier. Mais en
l'occurrence,
vous écrivez en français, vous écrivez évidemment des phrases qui sont très suggestives. Vous dites par exemple que les physiocrates ont su monter une plateforme multimédia de communication et de relations publiques étonnamment efficace pour pousser justement leur avantage auprès de la cour et auprès du roi. Alors, évidemment, après cette catastrophe de cette libéralisation du marché, hop, on referme, on revient à un système un peu plus gouverné par l'État, en l'occurrence, sur ce prix des blés. Mais la discussion continue. Et là, on voit effectivement tous ceux dont je viens de parler, les Galliani et tous les autres qui débattent, qui discutent par intermédiaire de libelles, qui débattent pour certains en écrivant depuis Londres. C'est celui qui conclut, il s'appelle Simon-Henri Linguet, votre ouvrage en l'occurrence. Donc ils écrivent depuis Londres, ils écrivent depuis Paris. Diderot ou Voltaire dans l'Encyclopédie prennent des positions en disant qu'il est important de raisonner sur les blés.
Oui, on est dans ce que j'appelle le tournant économique, c'est-à-dire le moment où les Lumières commencent à se préoccuper des questions du quotidien, des questions qui sont donc terre à terre. Et la question évidemment la plus lancinante, c'est cette question de subsistance. C'est le souci évidemment quotidien de la vaste majorité des gens, et c'est aussi cela qui lie les gouvernés aux gouvernants, parce que eux-mêmes ils sont préoccupés par la paix sociale. Et on a cette rupture, cette césure, donc il y a la libéralisation, qui est un moment quand même formidable. La liberté dans une société opprimée, tyranniser une société qui est asservie, dire liberté, c'est quelque chose de formidable.
Ouais, mais vous dites qu'une fois que le génie est sorti de la bouteille, il est presque impossible de lui dicter son itinéraire. C'est difficile.
Bah, je dis qu'on a découvert que la liberté n'était pas sans ambiguïté, n'était pas sans aspérité. Et comme disait Necker, souvent derrière la liberté se cache l'esclavage.
Oui, alors que, curieusement, c'est au nom de la liberté et de l'antidespotisme que les physiocrates, ces économistes, donc, décident de cette libéralisation. Ils disent on est sous un régime despotique et pour pouvoir, justement, détacher nos entraves ou les libérer, eh bien, il faut plus de liberté sur le marché et en particulier sur le marché des blés, Stephen Kaplan.
Il faut inventer le marché, c'est-à-dire le construire autrement. Le marché, c'est le fruit d'un jeu libre de la demande et de l'offre. C'est le fruit également de la sanctuarisation totale de la propriété et de la liberté qui sont des droits naturels. Or, c'était tout de même une idée extrêmement porteuse, c'était une idée extrêmement attirante, parce que la promesse, c'était la fin des disettes, la fin des famines, la fin des problèmes fiscaux, la fin de cette espèce de cul-de-sac dans lequel la France se trouvait depuis un certain temps.
Alors, le plaisir de lire Raisonner sur les blés, c'est le même que celui qu'a eu Diderot à lire l'essai donc de Galiani quand il dit « Il nous fait penser », parce que c'est un livre qui nous fait penser, en l'occurrence, Stephen Kaplan. Et ce Galiani est un personnage savoureux. C'est un Napolitain arrivé comme ambassadeur à Paris, découvrant les salons parisiens, les fréquentant très largement, se faisant une idée en fonction d'une famine qui a eu lieu chez lui, à Naples, et qui l'a beaucoup marqué, et disant et on ne peut pas laisser faire justement ces forces du libéralisme, il faut les contrôler, et obtenant le soutien, et là aussi il y a quelqu'un qui a corrigé son texte, de Diderot, et, qui corrige son texte alors qu'il s'est fait expulser pour ses propos de France, ce Galiani. Il corrige son texte chez l'imprimeur et ça fait un débat considérable dans la France des années 1770.
Ça fait un débat énorme parce que le débat est en quelque sorte ancré, inscrit dans un contexte de crise sociale, de crise économique, c'est un moment de turbulence extraordinaire qui dure une dizaine d'années, qui va être en quelque sorte reprise par Turgot, qui va faire rebelote et qui
va faire rebelote du côté libéral.
Exactement, et qui va faire la même chose en quelque sorte. Or, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est que pour comprendre ces textes, parce que ces textes, on les connaît, ils font partie d'une espèce de canon, ils sont examinés.
Un canon pour les historiens comme vous du XVIIIe siècle, parce que nous,
oui,
on les connaît peu.
Voilà. Bien sûr. Mais ce canon-là était un canon qui était surtout lu de façon interne. C'était un canon qui était examiné, me semble-t-il, avec les fenêtres et les volets fermés. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que en mettant ensemble l'enquête sociale avec une lecture extrêmement assidue des textes, on arrive à comprendre les enjeux autrement. Donc Galiani, il est quoi ? Un Machiavelli parce qu'il défend la raison d'État, un mercantiliste parce qu'il défend l'industrie. Non, je crois que l'enjeu ici est beaucoup plus important. Il met en question non pas la liberté comme concept, mais la liberté comme application pratique dans la vie de tous les jours. Et on a donc cet affrontement entre les libéraux qui sont inspirés par une vision naturaliste d'un côté, et de l'autre côté, on a des gens qui disent bravo la liberté, mais tout de même, on a des impératifs de cohésion sociale et de tranquillité publique.
Ce que vous appelez le désencastrement, c'est-à-dire que les libéraux veulent désencastrer justement l'économie de son statut social, de son ancrage, son enracinement social, et effectivement, vous montrez combien il y a des débats sur cette question-là. Alors, quand on a lu Daniel Roche, quand on a lu Antoine Lilti, on comprend aussi que c'est un petit milieu international, certes, parce que ils viennent de Naples, ils viennent de Prusse, ils viennent de partout pour pouvoir débattre à Paris autour de ces encyclopédistes et de ces gens qui réfléchissent sur l'économie et ces physiocrates. Mais que c'est un petit débat, ils se croisent tous. Et quand ils se croisent, il peut y avoir des malentendus. Par exemple, Galiani croise Morlaix, et pourtant ils ne sont pas trop d'accord. Ils croisent des gens qui défendent Quesnay. Ils croisent des gens qui défendent donc les physiocrates. Et en fait, certains voudront dire, mais il a changé d'avis, par exemple, Galliani, parce qu'il était de notre côté, puis il est passé du côté de l'adversaire. Ça doit être difficile de se croiser tout le temps dans Paris, dans les salons, et de tenir, comme on pourrait le tenir, des propos qui sont assez fermes sur le point de vue de la vision que l'on a de l'économie, puisque cette économie est en train
oui,
de se mettre
enfin,
en place.
Oui, enfin, si j'étais méchant, je dirais que les libéraux mangent dans tous les râteliers, car on a Morellet qui dîne chez Necker, et puis évidemment qui est subventionné par les libéraux du ministère, et puis qui va devenir l'âme damnée de Turgot. Non, ils vivent dans un petit monde, et c'était pour ça que l'ire, la colère, le courroux des physiocrates est tellement énorme quand, au milieu de cette crise, ils voient émerger toute une opposition, parce qu'ils disent, comment est-ce possible d'être philosophe et d'être contre la liberté? Et les gens qu'on appelle les antiphysiocrates, je préfère les appeler autrement, parce que je ne crois pas que...
Les alter-économistes.
Oui, je dois dire, M. Bannon et ses amis m'ont fait un sale coup avec leur alt-conservatisme, parce que ça n'a rien à voir. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que les antiphysiocrates, entre guillemets, ne se réduisent pas à leur antagonisme au physiocrate. Et on a ici d'un côté cette notion que être libéral est le sine qua non, la condition sine qua non d'être philosophe, et les alter-économistes qui sont profondément blessés par cette notion d'être excommuniés de la République des Lettres parce qu'ils ne sont pas favorables à un système catastrophique, calamiteux pour la société.
Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ces intellectuels, parce que ce sont des intellectuels avant l'heure, parlent pour le peuple.
Mais évidemment.
Et au nom du peuple, évidemment. C'est-à-dire qu'ils parlent au nom de la société, ils disent, ça serait mieux pour la société, ça serait mieux pour le petit peuple, si on mettait en place des mesures de libéralisation, disent les uns, et puis les autres disent, mais non, le peuple est de notre côté, ce que vous appelez les alter-économistes, cette opinion publique qui est naissante avant la Révolution française, c'est notre allié, parce que regardez, ils sont contre justement qu'on libéralise le prix du pain et puis qu'ensuite on se retrouve avec des prix beaucoup trop élevés, par exemple.
Ouais. Mais c'est un grand problème, ce que j'appelle le problème peuple pendant les Lumières. Et il faut dire que physiocrates, antiphysiocrates n'ont pas la même conception. D'un côté, il y a un peuple panier de déplorables, il y a un peuple sans dents. Et il y a un peuple qui n'est pas capable de raisonner, qui n'est pas capable de connaître ses propres intérêts. C'est un peuple qui est complètement submergé et asservi aux préjugés. Ça, ce sont les libéraux. C'est leur façon de voir ce peuple-là. Ils sont très gênés par le peuple. Parce que s'il n'y avait pas de peuple, la transition vers la liberté serait beaucoup plus facile. Mais cette transition-là, ils ne la pensent pas, ils ne prévoient pas. Et donc, ça ouvre donc une perspective absolument apocalyptique pour les autres qui, eux, ont une autre idée du peuple, non pas idéalisée ou romantique, mais réaliste.
Alors, on voit bien, effectivement, que vous ne cessez de faire, vous parlez même de Trump dans ce livre, Raisonner sur les blés à un moment.
Oui. Bon,
vous ne cessez de faire des allers-retours entre présent et passé, ça vous amuse, en l'occurrence, et on sait que ça vous amuse beaucoup, Stephen Kaplan, vous qui êtes aussi, par exemple, qui avait fait un livre fort intéressant sur le bicentenaire de la Révolution française, jouant justement sur les rejeux du passé dans le présent de la France des années 1989-90. Et vous terminez, comme pour vous faire mal d'une certaine façon, vous qui êtes un panophile distingué, vous qui êtes un conseiller de la meunerie française depuis le temps que vous travaillez sur les blés et sur le blé et sur le pain, vous terminez par un personnage qui s'appelle Simon-Henri Linguet qui ne peut pas voir le pain en peinture. C'est pour vous faire mal que vous avez terminé ce livre sur ce sujet-là ?
Oui, c'est pas pour Lady Gaga et son allergie au gluten. Non,
vous dites qu'il est panophobe, ce Linguet.
Il est peut-être cœliaque aussi, parce qu'il se plaint constamment d'avoir...
Qu'il a des ballonnements.
Voilà. Non, mais il pense le problème de la tyrannie des grains. Les physiocrates arrivent en disant, nous allons abolir la tyrannie des grains. Et en fait, ils renforcent cette tyrannie terriblement. Linguet dit, d'abord, la tyrannie des grains, c'est même pas un problème de marché, c'est même pas un problème de prix, c'est que vous êtes cons, les Français, fait d'investir
autant symboliquement dans le pain, parce qu'il pourrait y avoir un patrimoine mondial du pain, par exemple. On pourrait inscrire le pain français ou la baguette au patrimoine mondial de l'humanité dont on parlait au début. Et il dit, ce Linguet, mais il dit, attendez, mais il y a plein d'autres endroits en Europe où on mange autre chose que du pain. Et même en France, dans le royaume de France, il y a des endroits où on ne prend pas de pain et on prend autre chose pour pouvoir justement lester son estomac.
Exactement. Et puis, il dit, on peut manger, il y a dans la mer le poisson, tout le monde peut manger ça. Il y a le riz qui est beaucoup plus facile il avait tort de produire. Et Linguet, bon, il est toujours dans l'hyperbolique, il est toujours dans l'excès, mais il a quand même un argument assez puissant. Et cet argument-là, c'est encore un argument qui dit que le principe fondamental de tout ordre social, c'est la cohésion sociale. Necker, il parle de ce combat obscur entre ceux qui ont de la propriété et ceux qui ne l'ont pas. Linguet, il dit que tout le monde a un droit à l'existence. Ce droit à l'existence, sa patente, c'est son ventre, son estomac.
Oui, parce qu'évidemment, vous faites tout un paragraphe, un chapitre sur Necker, justement, qui tente, justement, lui, de allier, pourrait-on dire, c'est quoi? C'est la troisième voie, Necker, entre ces hyper-libéraux et ces gens qui défendent le contrôle par l'État du marché du pain?
Je dirais que les gens qui sont favorables à la restriction, à la réglementation, à la prohibition, ne sont que très rarement des intransigeants. Ils sont plus dans disposition de Necker. Necker, on peut pas l'expliquer en disant c'est un colbertiste calviniste. Necker, c'est quelqu'un qui a bien compris que la société était fragile, que cette espèce de fragilité obliger les gens qui gouvernaient de prendre en compte le besoin d'articuler ceux qui ont et ceux qui n'ont pas.
Oui, vous dites qu'il a voulu réinstituer le contrat que le libéralisme avait voulu annuler, en annulant ainsi la politique, c'est ce que voulait le libéralisme.
Exactement.
Et que lui, il a voulu redonner à l'administration et à l'État la capacité d'agir.
C'est exactement ça, c'est la politique.
Pour faire justement cohésion sociale avant la Révolution française. On a grand intérêt à vous lire, Stephen Kaplan, une nouvelle fois, avec ce raisonner sur les blés, essai sur les lumières économiques, chez Fayard, dans la collection Histoire. Nous avons presque terminé cette émission du vendredi, mais nous concluons désormais cette émission par une nouvelle séquence qui s'appelle « C'était à la une ». Qu'est-ce que c'était à la une? Eh bien, avec nos amis de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, nous choisissons chaque vendredi un texte important, un texte trouvé dans la presse. Et aujourd'hui, nous allons vers les années 30.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
emportant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
L'humanité, 4 août 1933. Duke Ellington à Paris. Le premier gala de Duke Ellington fut, par une timidité regrettable de ses organisateurs, placé sous le signe de Jack Hilton, admis lui depuis longtemps en France. Hilton, présentant du haut de sa notoriété l'orchestre de Duke Ellington, qui s'en serait bien passé, fut sifflé. Le succès, ou pour mieux dire, l'enthousiasme suscité par le premier gala fut tel qu'on dut le recommencer sans Jack Hilton cette fois. Puis Ellington, qui n'avait sans doute guère aimé les habits noirs qui encombraient la salle, demanda que fût organisée une soirée à des prix populaires. Les nombreux camarades que nous avons eu le plaisir de rencontrer dans la salle l'en ont remercié. On ne pourrait guère mieux parler de la musique d'Ellington que ne l'a fait M. Canetti en présentant l'orchestre. C'est pourquoi nous lui empruntons les lignes qui suivent. En quoi la musique d'Ellington diffère-t-elle de celle d'autres ensembles de jazz de même importance numérique? Duke Ellington a toujours laissé dans ses arrangements une importante place à l'improvisation individuelle. Or, son orchestre a une telle cohésion que toutes les improvisations semblent imprégnées d'un même esprit, d'une même pensée. Un autre trait de génie d'Ellington a été l'utilisation de sonorités nouvelles, inspirées peut-être par les effets de sonorités assez curieux de Bubber Millet, dont les improvisations à la trompette, plus ou moins bouchées, devinrent bientôt caractéristiques de l'orchestre entier. Ellington eut l'idée d'employer chaque instrument non seulement en raison de sa sonorité propre, mais aussi en fonction d'une sonorité totale, qu'il arriva bientôt à créer cérébralement. Cette faculté de doser différentes sonorités d'instruments et d'obtenir un effet total, mystérieux et pourtant attirant, qu'il est presque toujours impossible d'analyser, voilà bien la raison essentielle de la suprématie de Duke Ellington dans le domaine de la musique du jazz hot. Sale Pleyel. Interrompant les applaudissements qui jamais n'auraient cessé, Duke Ellington se lève simplement, il annonce « Le prochain morceau est Echoes of the Jungle », puis s'assied au piano. L'orchestre commence. Les spectateurs enfoncés dans leur fauteuil ne peuvent plus bouger. Ils ne voient plus rien. Ils regardent l'orchestre qu'ils ne peuvent fixer. Quelques esprits forts venus méprisants et pour qui jamais le jazz, et surtout celui-là, ne sera de la musique, sont pris malgré eux. Ils ne pourront se ressaisir, retomber sur leurs pieds qu'à la fin du concert, dans la rue. Le flic de service, les passages cloutés seront là pour les rassurer. Leur voiture n'a pas changé de place.
Voilà pour cette nouvelle séquence, tous les vendredis en fin d'émission avec Retro News. C'était à la une, si vous voulez justement lire intégralement cet article de l'Humanité en 1933 sur la venue de Duke Ellington à Paris. N'hésitez pas à aller sur le site de Retro News, vous en trouverez l'adresse sur notre site à nous, franceculture.fr. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Bruno Gagnard-Fontani nous a accompagnés à la technique et nous avions avec nous la chance d'avoir à la réalisation Séverine Cassard. La semaine prochaine, nous vous parlerons du Vietnam à l'occasion de la sortie sur la diffusion sur Arte de la grande série sur la guerre du Vietnam de Ken Burns. Et donc lundi, nous vous parlerons en particulier, nous aurons un entretien avec Ken Burns, mais aussi Pierre Grosser sera là pour nous parler de la guerre froide en Asie. Et si vous voulez continuer à parler d'histoire et à entendre parler d'histoire pendant le week-end, l'émission de Jean-Noël Jeannonet, Concordance des temps, demain sera consacrée à un sujet que connaît bien notre invité Steven Kaplan, puisqu'il s'agit de l'actualité de Louis-Sébastien Mercier avec l'historien Jean-Claude Bonnet.